Bienvenue à tous aux Embrouillages sur l'émission Route 66, l'émission des musiques roots américaines sur Radio Edrel 103.5 FM avec Jean-Luc et David, toujours là.
Salut à toutes et à tous. Alors une large partie de l'émission du jour sera consacrée à un personnage aussi passionnant que passionné, à savoir Pascal Tassy. Alors ce paléontologue réputé, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et auteur de nombreux ouvrages sur sa spécialité, est aussi un fin amateur de musique roots américaine, comme le témoigne son nouveau livre « L'invention du mastodonte » paru aux éditions Belin. Mais tout de suite, place à la musique sur le 103.5 FM avec une découverte très personnelle. Elle nous vient de San Francisco, en Californie, et pratique une country folk indie très originale, comme l'atteste ce morceau « Hippie Boyfriend », extrait de son album « Pull All The Love, Pull All The Knowledge ». Elle se nomme Hannah Howie, et c'est la première fois que vous l'entendez sur une radio française. Et je l'espère, pas la dernière. C'est parti.
Hello, this is Fito de la Parra, Bertur of Can It Heat, and this is a Route 66, Boogie On.
Together we will stand every boy, every woman, and a man. Oh, come on!
C'est le concert événement de ce début d'été, le groupe Candidate qui revient en France pour une date au Bataclan de Paris le 4 juillet prochain pour ce qu'il nomme un Woodstock Reunit. Et oui, nous fêterons le 40e anniversaire de ce festival cette année. Et ils seront presque au grand complet par rapport au line-up de l'époque, puisqu'il y aura trois membres originaux de ce festival de Woodstock qui seront présents pour participer à la fête, à savoir le batteur Fito de la Parra, le bassiste, l'un des meilleurs au monde, Larry Taylor, et le guitariste ô combien excellent Hervé Mandel. Nous venons de les écouter avec un extrait de leur album de 1970 qui s'appelle Future Blues, et le morceau, vous l'avez forcément reconnu, c'est un de leurs grands standards, Let's Work Together. Alors sachez, pour les plus fidèles d'entre vous, que dans les semaines à venir, j'aurai des places à vous faire gagner pour ce concert des Candidates au Bataclan à Paris le 4 juillet prochain. Alors le moment est venu de découvrir tout de suite monsieur Pascal Tassy, éminent paléontologue mais aussi musicologue qui a plusieurs cordes à son arc. En effet, il est également l'auteur de nombreux ouvrages dont le dernier vient de sortir aux éditions Belin dans la collection Pour la Science. Il se nomme L'invention du mastodonte et relate les pérégrinations de notre héros au pays du bluegrass, à savoir le Kentucky. Ainsi, il y évoque la naissance de la paléontologie tout en s'imprégnant de la culture et des couleurs locales. Alors, au détour des quelques pages, on peut aussi bien y lire les noms d'Elvis Presley, Bill Monroe, aux côtés de ceux de Buffon, Benjamin Franklin ou Georges Cuvier. Alors, c'est vraiment un voisinage complètement inédit. Évidemment, la boisson locale se rappelle à notre bon souvenir puisque le bourbon trouve sa place dans les écrits et sait délicieusement nous rafraîchir les idées, surtout lorsqu'il est consommé avec modération, évidemment. Alors, place à la science, place à la musique, place à Pascal Tassy, vous verrez ce gars-là. Il est vraiment terrible.
Et regarde un peu celle qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir serait de lui parler. Elle aguiche mes amis, même les plus petits. Pourtant pour elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Regarde un peu cette voiture. On l'a tirée vraiment faite pour moi. Et ils ont fait pour rouler avec ça. Et la chance que je pense au prix de l'essence. Je perds subitement l'envie de me la payer. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, est terrible. Attends un peu à que je travaille. Quand je pourrais me la payer content, j'inviterai la belle fille à monter dedans. La capote baissée sans trop nous presser. À nous descendrons les Champs-Élysées. Et les copains nous voyant passer diront mais tu sais. Je peux te dire gars là, waouh, il est terrible. Yeah. J'ai beau de rouler en rêvant. Voilà que j'arrête ma vieille citron. Et j'ai pas de mine devant la belle maison. Et celle que j'aime, les poches à plat. Pourtant si elle m'envoie, c'est rien qu'une fois. Je dirai certainement en parlant de moi. Je peux te dire ce gars-là, waouh, il est terrible.
Pascal, tu as découvert le rock'n'roll à ses presque débuts en France. Alors est-ce que tu peux revenir sur ta révélation de cette musique?
Ah ben écoute, Ça vient directement de Johnny Hallyday. Ça vient de l'année 62, l'Olympia 62. L'année où j'ai découvert notamment Yaya Twist, qui était une adaptation d'un titre de Lee Dorsey. Ça, j'ai découvert plus tard. Et l'Olympia 62, alors là, ça a été la découverte du rock'n'roll par Elle est terrible, La bagarre, I Got a Woman. Ça a été également un twist qui était en fait une adaptation d'un titre de Sam Cooke. Donc j'avais 13 ans et j'étais ébloui. Et j'ai compris que cette musique était faite pour moi.
Par la suite, tu as pu assister à un nombre incroyable de concerts et tu es devenu notamment un habitué des fameux musicoramas d'Europe numéro 1 à l'époque. Alors, quels ont été pour toi les moments scéniques les plus incroyables de cette période?
Ben, grâce à Johnny Hallyday, j'ai pu me passionner pour les racines de cette musique, le blues notamment, et le rock'n'roll des origines, hein, qui était assez mythique au début des années 60 pour les amateurs qui écoutaient Salut les copains. Hein. Donc on parlait de disques des grands anciens sans trop les connaître, en les chercher. Enfin, il y avait toute une recherche. Et la recherche, c'était aussi du côté des concerts, puisque grâce au fameux Musicorama d'Europe 1, les groupes qui recréaient ce style de musique de façon moderne, comme les Rolling Stones par exemple, pouvaient se produire sur scène. Donc j'ai vu les Rolling Stones, notamment avec Brian Jones, donc ça remonte à loin. Sur scène, c'était pas aussi bien qu'on pouvait l'imaginer en écoutant les disques. C'était assez confus. En revanche, les Animals, avec leur chanteur Eric Burdon, m'avaient complètement épaté. C'était mieux sur scène qu'en disque. C'est, pour nous, c'était la référence, parce qu'il faut savoir que les groupes français de rock, notamment, ramaient un peu hein, quand il fallait se produire sur scène, alors qu'en studio, on pouvait toujours s'arranger. Alors, bon, Eric Burdon avec ses Animals, c'était aussi des grands moments. Bon, qu'est-ce que je pourrais sélectionner? Le top du top, ça a été un concert absolument inouï. Le premier concert de Jimi Hendrix en vedette à Paris était absolument extraordinaire. On l'avait vu, nous, les fans de Johnny, c'est le cas de le dire, un peu avant, en première partie, d'un musicorama exceptionnel de Johnny Hallyday. Mais Hendrix, c'était vraiment... Le bluesman, enfin c'était le blues pop psychédélique, c'était un mélange tout à fait étonnant qui était extraterrestre, hein, littéralement. Sinon Otis Redding, c'est beaucoup d'émotions. Otis Redding dégageait une émotion énorme avec finalement une économie de moyens. Il était chaleureux et ça déménageait sec. Je compare toujours Otis Redding à James Bond, que j'ai vu aussi à l'Olympia, donc à la grande époque. C'était fulgurant, James Bond. Mais en même temps, on avait l'impression de voir quelque chose de trop bien. C'est un peu stupide de dire ça, parce qu'on était ravis. Mais bon, on en avait l'impression d'un spectacle rodé au quart de poil. On se disait, je suis sûr, si je vais retourner le voir demain, ce sera exactement pareil. Alors que pour Otis Redding, non, on s'imaginait que ça serait toujours différent. Enfin bref, il y avait un côté humain d'Otis Redding qui est resté inoubliable.
Est-ce parallèlement à la musique que tu as découvert également une passion, que tu t'es découvert une passion pour la paléontologie? Et si oui, quels sont éventuellement les éléments ou les points communs que tu pouvais retrouver entre ces deux univers tellement distincts?
Ah, ça c'est une question complexe. Non, ma passion de la paléontologie est beaucoup plus précoce. Moi, je voulais étudier des animaux préhistoriques. Alors ça, c'est une passion de gamin. Un certain nombre de paléontologues, d'ailleurs, ont enraciné leur passion dans des émotions de gamin. Dans mon cas, c'était de la bande dessinée ou dans les aventures de Blake et Mortimer. Il y avait une planche qui m'avait absolument fasciné. Hein. J'avais 7 ans et je voyais ces ptérodactyles dans une planche très très réussie au point de vue pictural de Jacobs. Et je me dis, mais ça, c'est intéressant, ça. Après, je commande au Père Noël une encyclopédie sur l'histoire de la Terre et donc de ses habitants. Et ça y est, je me dis, je vais plus grand, plus tard, j'étudierai ça quand je serai grand. Donc, j'ai voulu faire de la paléontologie, donc, de manière un peu fantasmatique. Et alors, vis-à-vis du rock'n'roll, si on peut faire un rapport, c'est que la paléontologie, c'est une espèce de retour aux sources qui est en même temps de la création. C'est-à-dire qu'avec l'étude des fossiles, on illustre l'histoire passée de la vie sur Terre en expliquant la période actuelle, mais on veut véritablement ressusciter des moments de l'histoire du passé, 1000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, 100 millions d'années. Enfin, on remonte comme ça vers les origines. Et ma découverte du rock'n'roll, 62, c'est la fin du rock'n'roll pour beaucoup de puristes. Et donc, j'ai voulu savoir d'où ça venait, cette musique. Donc, j'ai écouté les premiers rockers. En plus, j'avais un copain qui était un grand amateur d'Elvis Presley et qui avait quelques disques qu'il avait trouvés en Angleterre. Le Vénard, il était allé en Angleterre, lui. Donc, il avait un disque de Chuck Berry, ce qui était exceptionnel en France. Et puis, Elvis Presley. Et donc, on remontait aux sources, comme ça. Et alors, du coup, qui dit rock'n'roll dit blues. Et donc, quand j'ai découvert les premiers disques de bluesmen authentiques, sans effet, d'une rigueur extraordinaire. Alors là, j'ai vraiment craqué pour cette musique. Donc, j'ai fait un travail d'archéologue à ma manière. D'un côté, il y avait les Rolling Stones qui chantaient des vieux blues à Mucking Bee. Et puis, de l'autre côté, on allait écouter vraiment les créateurs. Et le côté écouter un créateur dans un enregistrement ancien, c'était tout de même assez fascinant. Et en même temps, on fantasmait dessus. On se dira, est-ce qu'un jour, on pourra les voir? Et puis, quand les bluesmen sont arrivés, avec l'American Folk Blues Festival, ou bien en star. Alors là, c'était un bonheur extraordinaire. J'ai jamais vu un vieux bluesman arriver et quitter la scène en disant « Bon, finalement, c'était pas si terrible. » Alors qu'avec des rockers, on pouvait penser ça. Il y en a un que je n'ai jamais vu. J'ai failli voir, et puis il a décommandé. Il n'était pas bien. C'était Lightnin' Hopkins, qui est peut-être mon bluesman préféré. Enfin, c'est un peu ridicule de dire ça, parce qu'il y en a tellement qui sont mes préférés.
Folks, we can sing this song. Don't get mad, I don't mean no harm. I want to play with you, boo. I want to play with you. I want to play with you, boo. I mean your little poodle dog. Yeah, that little poodle got a long shaggy tail. While I tried to buy my buddy, wasn't for sale. Can I play with you, boo? Can I play with you, boo? I want to play with you, boo. I mean your little poodle dog. Down in town with my hat in my hand, I was looking for a woman, didn't have no man. I want to play with your poodle. I want to play with your poodle. I want to play with your poodle, me little poodle dog. Bed. Well, one time over, this is what she said. Can I play with you? Can I play with you? Can I play with the pool of me, little pool of me? Now, I love you, woman, what you're trying to do. Trying to love my brother and love me too. Wanna play? I want to play with the pool of me, little pool of dog. Play it out loud.
Vous êtes nombreux parmi les membres du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris à partager cette double passion.
Pas très nombreux. En tout cas, de ma génération, je peux trouver pas mal de collègues qui ont été des amateurs du journal Tintin, du journal Spirou. Ça, oui, il y en a pas mal. Certains l'avouent volontiers. Rock'n'roll, beaucoup moins. En revanche, je peux témoigner que pas mal de jeunes paléontologues en herbe qui sont en train de faire leur thèse ou qui ont fini leur thèse ou qui sont déjà maintenant des maîtres de conférences à l'université sont des amateurs de rock, quelques-uns de punk rock. Et aller voir travailler dans leur bureau dans la journée, on ne peut pas imaginer une seconde leur comportement nocturne le soir même.
Cette passion de la musique, d'ailleurs, a souvent été l'objet de quelques clins d'œil au sein de tes ouvrages. Est-ce que ce sont des clins d'œil que tu as fait pour ta, propre satisfaction ou alors est-ce que tu as eu des retours, des gens l'ont-ils constaté?
J'ai déjà fait quelques clins d'œil vis-à-vis de la bande dessinée, voire organisé avec Philippe Taquet, je le dénonce, le spécialiste français des dinosaures. On a réussi à faire une exposition sur la bande dessinée, la paléontologie au muséum, il y a 9 ans de ça. Mais je n'ai jamais jusqu'à présent vendu la mèche question rock'n'roll ou blues, sauf dans le dernier ouvrage que j'ai écrit qui concerne les origines même de la paléontologie au travers de l'étude des premiers fossiles qui ont été mis au jour il y a de cela pas mal de temps puisque c'est au cœur du XVIIIe siècle et dont on peut remonter tout le fil de l'étude progressive jusqu'à la compréhension de ces objets. Donc il a fallu quasiment 60 ans entre la découverte et véritablement la compréhension des objets, plus 60 ans pour admettre que ces objets font partie d'une histoire, d'une évolution. Donc je brosse un petit peu l'histoire des idées au cours du siècle, mais comme cette origine de la paléontologie est américaine, dans le Kentucky, j'ai pas pu résister à cadrer cette histoire avec des éléments socio-économiques, pourrait-on dire, qui n'ont rien à voir avec la paléontologie, mais qui ont à voir avec l'histoire de cette région, et donc, pourquoi pas musical, puisque le Kentucky, c'est le pays du bluegrass, autant du point de vue de la description géographique, hein, c'est une région du Kentucky, le bluegrass, et c'est aussi un style de musique country, dont je sais, comme tous les amateurs de rock'n'roll, que c'est l'un des deux piliers du rock'n'roll. Si on peut faire simple, le bluegrass et le blues se retrouvent à l'origine du premier disque de rock'n'roll en direction du public blanc, la fameuse maison de disques Sun. Le premier disque d'Elvis Presley, c'est l'adaptation d'un bluesman noir et d'un chanteur de country blanc. Donc Arthur Big Boy Crudup, et Bill Monroe sont les précurseurs d'une forme de rock'n'roll qui va changer pratiquement la sociologie de la planète. Alors ça, comme ça se passe dans la région, le bluegrass, où on a trouvé les premiers fossiles qui vont servir à des personnages aussi célèbres dans le monde de l'histoire naturelle que Buffon et un peu plus tard Cuvier, ben j'ai voulu associer ces noms qui, jusqu'à présent, je crois pouvoir m'affirmer sans trop de risques, n'ont jamais été associés dans un index de livres scientifiques.
Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and proved untrue. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. It was on a moonlight night, the stars were shining bright, and they whispered from on high, your love has said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and said goodbye. Left me blue. moonlight night, the stars were shining bright, and they whispered from on high, your lover said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone, and said goodbye.
Puisque tu parles de ce nouvel ouvrage, justement, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce périple dans le Kentucky et éventuellement me parler de certaines expériences que tu as pu vivre là-bas, voire d'anecdotes?
Alors, le paléontologue qui veut raconter l'histoire de la paléontologie peut se cantonner à l'étude des objets. Hein, ils sont dans les collections, au muséum. Mais je ne voulais pas raconter l'histoire des objets sans ressentir l'atmosphère des lieux mêmes. Parce que les Américains ont cette chance extraordinaire, c'est que le gisement initial qui a, pour moi, fondé la paléontologie, a été découvert en 1739, à l'occasion d'une expédition militaire, d'ailleurs, dont je pourrais dire un mot dans une seconde. Et donc, au bord de la rivière Ohio, dans ce qui deviendra le Kentucky, à l'époque où cette région est occupée par des Indiens, les Shawnees, que les amateurs de Daniel Boone connaissent bien, et je voulais vivre donc ce lieu, sachant que le gisement qui s'appelle Big Bone Lick, donc le marais salé du gros os, était devenu un parc naturel appartenant à l'État du Kentucky, où donc le public est le bienvenu pour se promener dans un lieu assez bucolique. Une très belle végétation avec des bisons qui ont été qu'on réadaptés. Donc il y a un troupeau de bisons là. Ben, évidemment, les bisons ont disparu au début du 19e siècle de la région. Naturellement, bon, ils ont été réintroduits. Donc on peut faire une très très chouette balade. Aller dans le petit musée qui raconte que dans ce lieu, on a découvert des fossiles qui ont ensuite été étudiés. Et ces fossiles qui appartiennent à une espèce célèbre pour les Américains qui s'appelle le mastodonte américain. Donc je raconte l'histoire de la paléontologie au travers de l'histoire du mastodonte et un petit peu du Kentucky. Parce que le Kentucky, pour un amateur de musique, country, rock, blues, c'est moins évident que le Tennessee. Hein, le Tennessee, Nashville, Memphis, bon, tout le monde connaît ça. Le Kentucky, c'est moins connoté malgré tout, et même si le bluegrass est là. Alors, donc j'ai pu me promener dans cette région. Alors, Vous prenez une voiture de préférence américaine pour faire le tour de Kentucky, une Chevrolet, vous mettez une radio country locale, et là vous y êtes, quoi. C'est-à-dire vous vous promenez dans la campagne, dans le bluegrass, les collines verdoyantes du Kentucky, et vous êtes tout à fait dans l'ambiance. Disons que j'ai trouvé un lien naturel entre le paysage de l'époque, puisque la rivière Ohio circulait il y a 17 000 ans, à l'époque où vivaient les mastodontes américains, et puis les grands mammifères contemporains, le paysage actuel, et puis le contexte général, donc la musique country que j'aimais. Donc j'ai pu en ressentir un peu l'esprit du lieu, à ma manière, et certainement pas la manière d'un paléontologue qui ne s'intéresse qu'à la paléontologie. Thank you.
Quelle a été la réaction de ton éditeur au moment où il constatait que tu faisais finalement rimer la paléontologie avec à la fois la musique, mais également le whisky qui est également évoqué dans cet ouvrage?
Alors oui, le whisky est évoqué. Pourquoi? Ben parce que on ne peut pas se promener dans le Kentucky sans boire du bourbon tout de même, hein, puisque le bourbon au sens strict, il vient du Kentucky et pas du Tennessee, puisque le Jack Daniel's, c'est du whisky américain, ça n'est pas du bourbon, hein, ça tous les spécialistes le savent. Donc j'ai fait quelques dégustations, notamment dans la région de Bardstown, et également dans une distillerie qui s'appelle la piste des buffalos, donc des bisons, Buffalo Trace, qui d'ailleurs est complètement reliée au gisement de Big Bone Lake, d'où la paléontologie est partie. Pourquoi? Parce que quand cette distillerie a été construite, elle a été construite au bord de la rivière Kentucky, parce que pour distiller du malt, il faut de l'eau courante, claire, pure, et donc les distilleries se situent au bord de ce type de rivière. Et elle a été construite, cette distillerie, sur une piste de bisons. C'est-à-dire les bisons ont cette manie d'utiliser toujours le même chemin. Ils creusent leur chemin littéralement. Et donc, les pionniers américains qui, venant de Virginie, ont progressivement conquis peu à peu les territoires indiens au prix de guerres souvent violentes, eh bien, utilisaient les pistes de bisons pour se déplacer souvent. Et les bisons, ce qu'ils aiment aussi, en dehors de l'eau claire, passion qu'ils partagent donc avec les bouilleurs de crue, eh bien, ils aiment bien aussi les terres salées, parce que ça leur donne le sel dont leur métabolisme a besoin. Et donc, ils vont dans les marais salés. Et donc, ils allaient à Big Bone Lake. C'est comme ça, d'ailleurs, que le gisement de Big Bone Lake, dont je ne vous raconte pas la genèse, parce que là, on en aurait pour des heures, c'est comme ça que le gisement de Big Bone Lake a été découvert en suivant une piste de bisons qui se dirigeait vers le marais salé. Donc, des bisons, c'est sûr, sont partis de l'actuelle distillerie de Buffalo Trace, qui est près de Frankfort, qui est la capitale administrative du Kentucky, jusqu'au nord, à Big Bone Lake. Ça, j'en suis absolument certain. Et donc, ça me fait plaisir d'associer les deux. En plus, la légende dit que le bourbon a été inventé en 1789. Alors, c'est une date qui fait tilt en France, c'est bien la prise de la Bastille. Mais pour les naturalistes et les paléontologues comme moi, on sait que 1789, c'est la publication d'un livre d'un naturaliste botaniste qui s'appelle Jussieu. Et Jussieu avait proposé une méthode de classification des êtres vivants fondée sur un traitement particulier des caractères morphologiques et physiologiques. Bref. Et il publie cet ouvrage, Les genres de plantes, en 1789. Donc voilà, une date, 1789, une date dans l'histoire de l'histoire naturelle, une date dans l'histoire du Bourbon et une date dans l'histoire de France. Moi, j'ai trouvé ça très très plaisant, donc je ne pouvais pas ne pas parler du Bourbon à l'occasion de mon livre.
Cela n'a pas posé de problème vis-à-vis de ton éditeur ?
Alors, mon éditeur a été surpris, il faut dire. Il a été un peu déconcerté. En plus, je dois dire que par rapport à mes précédents ouvrages de vulgarisation paléontologique, je me suis vraiment laissé aller. J'ai laissé courir ma plume. Je me suis fait plaisir d'une certaine manière. J'espère que le lecteur partagera ce plaisir. Mais finalement, le mélange des genres, ça peut aussi amuser. Et donc, les éditions Belin ont accepté de courir le risque de sortir un livre d'histoire des sciences où on parle un petit peu du premier disque d'Elvis Presley, de la musique de Bill Monroe, Blue Moon of Kentucky, et puis au final, une réflexion sur... je me suis aussi laissé aller à faire une réflexion sur le décalage qu'il y a entre les politiques, les militaires qui ont géré l'histoire de cette région d'Amérique du Nord à leur manière, en se faisant aussi la guerre en Europe. Les Français et les Anglais étaient perpétuellement en conflit. Et les scientifiques de l'époque, qui anglais, français et américains, qui échangent des informations des lettres, des dessins, des idées sur qu'est-ce que c'est que ce fossile-là, à quoi ça correspond, étant donné qu'aucun animal ne ressemble à ses dents ou à ses gros os. Et donc il y avait d'un côté cette fraternité des chercheurs scientifiques, on pourrait dire, transnationale, et puis les agressivités, les guerres entre les uns et les autres, y compris avec les Indiens qui étaient sur place. Donc je me permets comme ça de tirer une petite morale à prétention pacifiste à l'occasion de la découverte des premiers fossiles.
One bourbon, one scotch, one beer. I say, hey, Mr. Bartender, come here. Want another drink and I want it now. The girl, she gone, she been gone tonight. I ain't seen the girl since night of full blast. Wanna get drunk and get her on my mind. One bourbon, one scotch, one beer. And I sit there drinking, get a stone. Yeah, yeah. After a while, look down the bar at the bartender. I say, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Well, the girl, she gone tonight. I haven't seen the girl since night of full last. Wanna get drunk and get her on my mind. One bourbon, one scotch, one beer. Then I sit there getting stoned. Mellow. It is so good, so good. I look down the bar at the bartender. I say, hey, 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 what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Well, the girl, she gone on tonight. I haven't seen the girl since night of full last. I wanna get drunk and get up on my mind. I want bourbon, one scotch, one beer. Then I sit there drinking. After a while, I raise my head, looked on the wall at the clock on the wall. By that time, quarter two, last call for alcohol. I look down the bar at the bartender. I say, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer.
Avant de conclure, et puisque ton livre parle des mastodontes, quels sont pour toi les derniers mastodontes de la musique et pourquoi ?
Ah, les derniers mastodontes, bah, pour moi, ce sont les, disons, les créateurs du rock'n'roll, ceux qui ont su donner un côté syncopé à la country et au blues, et qui sont encore vivants, il n'y en a plus beaucoup. Je crois que le dernier mastodonte, c'est Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard, qui paraît-il est celui qui se porte le moins bien des trois, après ce qu'on dit. Donc on voudrait qu'il tienne le coup le plus longtemps possible, parce que je crois que toute la musique d'aujourd'hui, sous toutes ses formes, même si pour les jeunes d'aujourd'hui le rock'n'roll c'est une musique archéologique, On s'y intéresse, on s'intéresse à l'histoire de la musique, mais ça, ce rythme particulier que j'aime moi parce que c'est le rythme de ma jeunesse, mais en plus parce qu'il a, il a le côté sautillant, bondissant, cette relance perpétuelle du côté syncopé du rock'n'roll, je le trouve à la fois exubérant et en même temps plein de charme. Eh bien, ce rock'n'roll-là, il est quelque part dans toutes les musiques rythmées qui ont envahi notre vie et on n'y fait plus attention. Eh bien, les créateurs qui ont... Donc ces trois lascars-là, ben, ce sont eux les mastodontes d'aujourd'hui, quoi. Les derniers.
Et te connaissant bien, je sais que tu es également un grand admirateur de Bob Dylan. Si lui n'est pas un mastodonte, comment le classerais-tu ?
Alors Bob Dylan, c'est autre chose parce que c'est pratiquement la réincarnation de la conscience musicale américaine. Il y a eu Woody Guthrie et il y a Bob Dylan, quoi. Donc c'est au-delà des caractéristiques musicales. Bob Dylan, c'est pas du rock'n'roll, c'est pas du folk blues, c'est tout cela et puis autre chose. Alors pour moi, Bob Dylan, je dirais que si un chanteur mérite d'avoir le prix Nobel de littérature, c'est Bob Dylan. C'est un poète extraordinaire, c'est un musicien subtil. Et je dois dire que je n'ai accroché à Bob Dylan que tardivement dans les années 60 avec le fameux double album Blonde on Blonde. Et là, je me suis rendu compte que c'était formidable et que déjà j'avais aimé ses précédentes incursions un peu plus musclées. J'ai été fan de Dylan, mais d'une manière moins passionnelle que vis-à-vis d'une star de rock qui a un côté charnel. Que ce soit Johnny, que ce soit Mick Jagger, ce sont des artistes qui sont pas si éloignés de celui qui est en train de l'applaudir. Bob Dylan a l'impression d'une intelligence à la fois intellectuelle et musicale en activité. Et au fil des années, j'ai mesuré l'importance de Bob Dylan. Et maintenant que j'approche de la soixantaine, je peux dire que le plus grand créateur de la musique folk blues de l'histoire, c'est Bob Dylan.
Est-ce que tu aurais une conclusion à ajouter ?
Là, je suis un peu perplexe. Bob Dylan figure dans l'index de mon livre de l'invention du mastodonte. Je ne sais pas si c'est un hommage, mais je ne pouvais pas ne pas le citer. Voilà. Donc il est présent dans cet ouvrage.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung and may you stay.
hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay.
Chanson qui colle définitivement bien à la peau de notre éternel jeune homme, Pascal Tassy, dont le nouvel ouvrage « L'invention du mastodonte » vient de sortir aux éditions Belin. Pascal, vous pouvez le retrouver sur notre site internet sur laroute66.free.fr à travers un long reportage qu'on lui avait consacré il y a de cela quelques semaines et qui a connu un vif succès sur la toile. Je vais peut-être énumérer quand même les différents morceaux que j'ai sélectionnés pour illustrer cette séquence et qui correspondent parfaitement à la personnalité de notre personnage. En premier lieu, il y avait Johnny Hallyday, Elle est terrible, extrait de fameux concert de l'Olympia en 62, premier concert de Pascal. On en profite d'ailleurs pour souhaiter un happy birthday à Johnny, hein, 66 ans dans ces jours-ci. Par la suite, nous avons écouté Lightning Hopkins, Let Me Play With Your Poodle. Il voulait jouer avec le poodle de sa copine, j'espère qu'elle l'a laissé faire. C'était en 1947. Par la suite, il y a eu Bill Monroe et son groupe, les Bluegrass Boys, Blue Moon of Kentucky, grand standard du bluegrass qui date de 1946. Et comme vous le disiez, Pascal Tassy, le morceau avait été repris avec énormément de talent et beaucoup de succès par Elvis Presley en 1954. Après, un groupe quasiment inconnu qui lui aussi nous vient du Kentucky, vraiment trop peu connu, c'est pourtant excellent, c'est vraiment de la musique traditionnelle telle que je l'aime. Le groupe s'appelle les Crockett's Kentucky Mountaineers, ils devaient également travailler dans les montagnes, ces gens-là. Le morceau était Little Rabbit et daté de 1928, ça n'a pas pris une ride, c'est comme Pascal Tassy. Et enfin, on a écouté John Lee Hooker, One Bourbon, One Scotch, One Beer. Je rappelle d'ailleurs à celui à qui l'émission a été consacrée ce soir qu'il devait décapsuler une petite bouteille pour fêter la sortie du bouquin. Et enfin, à l'instant, l'incontournable Bob Dylan, Forever Young, extrait de son album Planet Waves qui date de 1974, titre qui figurait deux fois sur cet album, hein. Il y avait d'ailleurs en ouverture de la face B une autre version qui était beaucoup plus country, mais j'ai voulu passer vraiment la version la plus connu. Je rappelle l'adresse encore une fois de notre site internet sur laroute66.free.fr. Cette émission, vous pouvez également l'écouter par le web sur le site de la radio www.rdl68.fr. Et puis j'en profite aussi pour rappeler un concert à venir, justement on parlait de Bourbon, hein, ce personnage-là également plutôt un excellent appréciateur de ce genre de boisson, mais il n'en boit jamais plus de deux verres à la fois. C'est monsieur Neil Black qui sera accompagné de Fred Chapelier pour son grand retour au CAFCONS d'Ensisheim, enfin un retour si on peut appeler ça comme ça, il y passe quasiment toutes les trois semaines actuellement. Ce sera les 20 23 et 24 juin prochains. On se quitte en beauté et en musique avec l'une des reines du Chicago Blues actuel. Elle se nomme Shirley Johnson. Son nouvel album paru sur le label Delmark s'appelle Blues Attack. Et on se quitte par cette chanson, Let It Rain, mais en pas trop de pluie, peut-être pas assez d'été. Allez, salut à tous, à la semaine prochaine avec encore une fois beaucoup de musique.
Ciao à tous et bonne route sur la route 66 toujours.
It started out a red letter day. It read trouble is on its way. Oh my, what are we gonna do? My job is cutting back hours, and yours is too. Let it rain, I don't care. My skies are always blue. As long as I'm loving you, and you're loving me too. I've got the will to move on. Nothing in this world could go wrong. There are so many other things you and I could do. We'll take a part-time job just to see us through. Let it rain, I don't care. My skies are always blue. As long as I'm loving you, and you loving me too. Come and go. They all have their story. How well we know.
I don't beg or borrow, not one red cent. See, I got you, baby, and that's the mint. Let it rain, I don't care. My skies are always blue, as long as I'm loving you, and you loving me too. There's sunshine in your smile. Let's me know we can make it a few more miles. That pot of gold is just around the bend, and we can get out of whatever this world puts us in. Let it rain, I don't care. My skies are always blue, long as I'm loving you, and you love me too. Let it rain.